voilà la conférence sur la Première Guerre mondiale ou la Grande Guerre, qui va bien sûr être commémorée en 2014. Donc nous, on voulait être les premiers à organiser quelque chose en 2013 déjà, hein, pour avoir le scoop en fait. Madame Anne Morelli est professeure à l'Université libre de Bruxelles, même chef de département d'histoire, et elle est spécialiste de l'histoire du sécularisme, mais aussi de l'histoire de la propagande de guerre, et elle est notamment aussi connue pour un livre sur les grands mythes de l'historiographie de la Belgique. Ici, on a Nicolas Offenstadt, maître de conférence à l'Université Paris 1 Sorbonne, un historien très très connu en France, quelqu'un qui a une vision très long terme, qui combine l'histoire du Moyen-Âge, en fait, avec l'histoire de la Première Guerre mondiale, une combination assez rare, et quelqu'un qui est aussi très actif et engagé sur le plan social. Notamment, il était un des plus grands adversaires d'une soi-disant maison de l'histoire de France que M. Sarkozy voulait donc créer pour avoir une sorte de musée de propagande nationaliste française. Et bon, ce projet a échoué, hein, grâce à Nicolas et aussi grâce aux élections, bien sûr. Mais bon, je vais commencer avec Nicolas, qui est venu spécialement de Paris pour nous. Pour cette commémoration, on aime bien commémorer les dates il y a 100 ans, 200 ans après ceci et cela. Mais il y a quelque chose de spécial avec la Grande Guerre. En fait, je voulais te demander, Nicolas, dans quel sens, sur le plan militaire, mais aussi politique, cette Grande Guerre était vraiment quelque chose de nouveau, un tournant dans l'histoire, qui n'était pas, qu'on ne peut pas comparer avec toutes les autres guerres vécues dans l'histoire mondiale. L'histoire a toujours été une histoire de violence et une histoire de sang, l'histoire depuis, disons, qu'il y a des classes sociales. Mais en quel sens donc est spécifique cette Grande Guerre?
D'abord, merci beaucoup de votre invitation à Manifesta, je suis très heureux d'être parmi vous. Alors, la question que tu poses maintenant, évidemment, c'est une question fondamentale. Il y a plusieurs tournants, évidemment, dans la Grande Guerre, hein, c'est évident. Il y a la guerre elle-même et il y a ses conséquences, hein, des conséquences sociales et politiques, donc je ne vais pas faire un cours d'histoire, ce serait long. Juste quelques mots pour lancer le débat. Évidemment, deux éléments fondamentaux de la guerre elle-même, c'est évidemment la mobilisation de masse. Hein, c'est-à-dire le nombre de soldats engagés, la manière dont sont engagés par la conscription. Hein, donc c'est évidemment une guerre qui mobilise considérablement les sociétés qui sont engagées, sans doute comme jamais, parce qu'il y a non seulement évidemment les soldats du front, mais il y a aussi l'arrière. Hein. Pour la France, évidemment, c'est 8 millions de soldats qui vont être mobilisés. Hein, donc évidemment, c'est une participation collective considérable. Et ça pose de graves questions sur savoir qu'est-ce que ça voulait dire que participer à la guerre. Hein. On ne va pas la résoudre maintenant, mais ça c'est évidemment un premier tournant fondamental, que cette implication sociale collective immense, y compris des sociétés en guerre. Alors je pense qu'il ne faut pas l'exagérer, on pourra en débattre, hein, mais il y a évidemment quelque chose de l'ampleur de la mobilisation des sociétés qui est le premier tournant par rapport aux guerres, par exemple pour la France, hein, de 1870, ou même dans une large mesure des guerres napoléoniennes. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième élément, évidemment, c'est l'expérience des combattants. Ça, c'est évidemment quelque chose d'une guerre dont la violence totalement inouïe. Hein, on dit la première guerre industrielle, c'est simple, mais c'est assez vrai malgré tout. Hein, les soldats vont découvrir, hein, ces obus qui broient les corps, cette guerre où finalement on voit très peu l'adversaire, on le tue rarement en face. Hein, et par contre, on est tué par des obus qu'on ne voit pas arriver dans des conditions qui sont absolument terrifiantes. Terrifiantes aussi par leur longueur. Hein, puisque non seulement c'est une expérience d'une violence qui est totalement inouïe, puisque c'est une guerre industrielle, il faut rappeler qu'en 14-18, hein,
L'essentiel des soldats qui sont morts par bombardement, par l'artillerie. Hein, donc c'est plus une guerre où on voit l'adversaire de corps à corps. Vous savez, il y a l'image qui court de la baïonnette, mais en fait on se bat très rarement à la baïonnette dans les tranchées. Hein, donc du coup, ce qui tue, c'est le feu, hein, ce feu de l'artillerie qui est totalement démentiel, hein, et dont les soldats deviennent souvent tout à fait choqués, même avant même d'être tués. Hein, il y a de très beaux témoignages qui racontent comment l'obus finalement finit par rendre fou avant même de vous toucher. Hein, notamment Gabriel Chevalier, qui est un écrivain français très célèbre, hein, il avait fait un livre qui s'appelait Clochemerle sur les querelles de village, qui est très célèbre en France. Il a fait la guerre, il a témoigné, et il raconte comment, lorsqu'on est dans une tranchée, lorsqu'on est dans une caverne, progressivement, le feu, le bombardement fait perdre tous ses sens, on finit par perdre des repères, à avoir de plus en plus peur. Et donc ça, c'est, je crois, un des grands traumatismes de la guerre, c'est d'avoir mis les soldats dans des expériences du feu tout à fait neuves, tout à fait inédites, extrêmement prolongées, avec des tas de conséquences dont on peut parler des heures, mais je signale ces deux points. Ensuite, juste rapidement pour cette affaire du tournant, pour ne pas monopoliser la parole, je voudrais signaler deux choses qu'on oublie. La Grande Guerre, c'est un bouleversement économique et social fondamental aussi, et pas seulement militaire. Évidemment, puisque les conséquences de l'économie de guerre, de l'organisation du crédit, de l'organisation du financement de la guerre, ont créé, parmi les conséquences économiques sociales les plus fondamentales, l'inflation. Hein, donc s'il y a un tournant fondamental du point de vue économique, c'est la naissance de l'inflation. Et l'inflation, qui date de la guerre de 14, hein, justement de cette économie administrée pendant la guerre et de l'entente qu'on faisait autour des prix, hein, qui va progressivement se libérer après la guerre, va changer complètement la société, les sociétés. Pourquoi ? Parce qu'avec l'inflation, c'est fini des rentiers du 19e siècle. Donc d'une certaine manière, je vais simplifier, la guerre de 14 a mis la bourgeoisie au travail, puisque la bourgeoisie pouvait vivre de ses rentes au 19e siècle. Hein, et c'était très courant, hein, de vivre de ses rentes. Mais à partir du moment où les rentes ne sont plus fixes, hein, ça veut dire que ces bourgeois doivent travailler, ils ne peuvent plus vivre. Et donc évidemment, ça va changer énormément de choses, hein, dans les structures et les rapports sociaux. Donc des bouleversements qui, sur le plan économique, sont considérables. Le deuxième bouleversement, mais on pourra en parler très longtemps évidemment, c'est qu'est-ce qu'ont fait les gens de cette expérience. Et moi, c'est ce qui me fascine depuis que je travaille sur la guerre de 14. Je dirais que souvent, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la guerre de 14 elle-même, c'est qu'est-ce qu'on en a fait. Parce qu'avec une telle expérience, hein, 10 millions de morts à l'échelle de l'Europe, qui sont tous des jeunes hommes, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on fait de ça après? Et mon travail, savant, je parle, hein, c'est plutôt de comprendre ça, hein, de ce qu'on a fait ou ce qu'on n'en a pas fait. Et je crois qu'une des conséquences sans doute fondamentales et assez compliquée à comprendre, hein, c'est que paradoxalement, puisqu'il y a une seconde guerre mondiale, il y a eu quand même un très fort rejet de la guerre. Il y a eu quand même, après 14-18, et ça c'est un tournant très important, partout en Europe, en France, en Belgique et ailleurs, de grands mouvements pacifistes, hein, qui se sont exprimés en disant « plus jamais de guerre ». Et je pense que cette conséquence, vous pouvez me dire « mais finalement c'est une conséquence de court terme, puisqu'il y a la Seconde Guerre mondiale qui se... » Mais je ne crois pas. Je pense quand même que la violence de la guerre, les pertes que les nations européennes et pas seulement ont subies, ont contribué progressivement, ça peut paraître paradoxal, hein, puisque vous dire « les guerres, il y en a tout le temps », je crois quand même à délégitimer une certaine idée de la guerre, malgré tout. Hein, parce que, évidemment, il y a des choses qui paraissaient inacceptables. Et je crois que la force d'un certain nombre de discours de paix s'ancre aujourd'hui sur, finalement, la puissance du rejet de ce massacre de masse de 14-18. Évidemment, c'est ni linéaire, ni simple. Hein, je ne dis pas, après 14-18, hein, le pacifisme est désormais une idéologie dominante. Je dis que, sans doute, les rapports ont été très bouleversés, et que c'est quand même une manière de penser qui a gagné en légitimité, évidemment, après un tel conflit. Voilà quelques éléments de discussion en matière de tournant.
Moi, j'aurais voulu d'abord peut-être réagir sur ce qui me semble le plus original dans la Première Guerre mondiale. Alors, je pense, comme vous, que ce n'est pas qu'on a traîné de force tous les gens qui ne voulaient pas y aller. Il y a un pourcentage de gens qui ne veulent pas y aller et qu'on devra contraindre, Nicolas, à travailler sur ces choses-là. On a vraiment fusillé des gens.
On va y revenir aussi.
On va y revenir. Mais c'est une minorité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans un pays comme le nôtre, avant 1914, il y a un mouvement socialiste puissant, que ce mouvement socialiste est internationaliste, et qu'il a comme mot d'ordre « le socialisme brisera le dernier fusil ». Et ce mouvement socialiste, qui est quand même représenté par le POB, etc., jusque-là, il n'a jamais voulu voter les budgets de guerre, il a toujours refusé le système de la conscription, et le 4 août 1914, le roi se présente aux chambres et les socialistes l'applaudissent, votent le budget de guerre et vont participer au gouvernement d'union sacrée. Et donc ça, c'est selon moi le retournement le plus extraordinaire. Alors on a dit que c'était les sociaux traîtres, en tout cas ils deviennent des sociaux patriotes, ce qui n'était pas la règle évidemment dans l'international jusque là. Alors ça, pour moi, c'est vraiment le tournant incroyable et qui va durer pendant toute la Première Guerre mondiale du côté belge, parce qu'il n'y aura pas de mouvement pacifiste socialiste à l'intérieur de l'armée belge, par exemple. Ce sont les mouvements indépendantistes ou les mouvements nationalistes flamands qui vont être dans une certaine mesure pacifistes, mais pas les socialistes. Et donc il faudra la petite réunion de Zimmerwald pour qu'il y ait quelques socialistes européens qui se prononcent contre la guerre. Mais la situation que je décris pour la Belgique, c'est aussi la situation de la France. C'est aussi la situation de l'Allemagne, où les socialistes se sont ralliés massivement à une idéologie qui était une idéologie complètement différente de ce qu'ils avaient tenu comme discours jusque-là. Et selon moi, ça, c'est un des points absolument essentiels de la Première Guerre mondiale, c'est ce retournement. Alors, je vous donnerai encore un exemple avant de céder la parole à Erwin. La sûreté française pensait en 1914 devoir arrêter au moins 15% des recrues qui auraient refusé violemment de partir au front. Ils ont arrêté 1,5% des soldats qui devaient partir pour le front. Donc ce mouvement s'est absolument effondré. Et le rôle, on pourra en parler tout à l'heure, mais le rôle évident de la propagande est un rôle crucial. Maintenant, il y a aussi, et je termine là-dessus, il y a aussi que l'historien doit faire de gros efforts pour comprendre une mentalité qui n'est plus la sienne. Imaginez aujourd'hui qu'il y ait eu des gens qui voulaient mourir pour la patrie, ça nous semble très étrange. Mais c'était l'idéologie d'une certaine époque, et je vois que des jeunes, par exemple, sont absolument incrédules par rapport à cette idéologie, mais comme historien, nous devons essayer de ne pas faire d'anachronisme et de ne pas juger avec notre mentalité d'aujourd'hui, où nous sommes peut-être en majorité ici pacifistes, de ne pas juger avec notre mentalité pacifiste d'aujourd'hui les actes et les discours d'une époque que nous ne comprenons plus toujours très bien.
C'est leur guerre, c'est pas la mienne, c'est pas la nôtre, c'est pas la tienne, c'est pas la vôtre. C'est leur guerre, c'est pas la mienne, c'est pas la vôtre, c'est pas la tienne, c'est pas la nôtre. Y'a des indicateurs dans tout ce qu'ils racontent, y'a des taux directeurs dans tout ce qu'ils recontent, y'a des indices dans tout ce qu'ils analysent. C'est la crise. Y'a des journaux dans tout ce qu'ils achètent, y'a des gamins dans tout ce qu'ils sous-traitent, y'a des banques centrales, y'a des fusions-acquisitions. C'est la compétition, y'a des cœurs de cible dans tout ce qu'ils vendent, y'a du court terme dans tout ce qu'ils demandent, y'a des communicants dans tout ce qu'ils disent. C'est la crise. Y'a des chaînes de production dans tout ce qu'ils auditent, des stocks options dans tout ce qu'ils profitent, y'a de la main-d'œuvre pas chère dans tout ce qu'ils espèrent. C'est leur guerre. C'est pas la mienne, c'est pas la nôtre, c'est pas la tienne, c'est pas la vôtre. C'est leur guerre, c'est pas la mienne, c'est pas la vôtre, c'est pas la sienne, c'est pas la nôtre. Y'a de la rentabilité dans tout ce qu'ils restructurent, y'a de la flexibilité, y'a de la conjoncture, y'a des profits dans tout ce qu'ils rentabilisent. C'est la crise. Y'a des valeurs ajoutées dans tout ce qu'ils argumentent. Y'a de la transparence dans tout ce qu'ils mentent. Y'a des ventes de voitures neuves, des immatriculations. C'est la consommation. Y'a des plus-values dans tout ce qu'ils spéculent. Y'a des calculs dans tout ce qu'ils régulent. Y'a des millions dans tout ce qu'ils s'indemnisent. C'est la crise. secrets bancaires, dans tout ce qu'ils investissent, il y a des classes à faire, dans tout ce qu'ils prospèrent. Youpla boum, c'est le roi des bénéfices. C'est leur guerre, c'est pas la mienne, c'est pas la nôtre, c'est pas la tienne, c'est pas la vôtre. C'est leur guerre, c'est pas la mienne, c'est pas la vôtre, c'est pas la sienne, c'est pas la nôtre. Y'a du coût du travail dans tout ce qu'ils délocalisent. C'est la crise, y'a des taux d'intérêt et des obligations. C'est l'inflation, y'a de la confiance, y'a de la croissance. C'est la concurrence, y'a du déficit budgétaire, y'a du gros salaire, y'a des actionnaires.
Avec la manière dont Bruno de Wever a présenté la question de la conviction patriotique. Parce qu'à mon avis, c'est un gros débat, c'est un vrai enjeu. Et pourquoi ? Est-ce que les soldats, qu'ils soient belges, français, allemands ou anglais, ont fait la guerre par conviction patriotique ? C'est une question fondamentale. Et je ne crois pas qu'elle soit tranchée, en réalité. Et je ne suis pas convaincu que les soldats étaient convaincus. Je vais m'expliquer. De ce point de vue-là. Que les soldats soient patriotes, naturellement, c'est assez... à l'époque, effectivement, vous l'avez dit, hein, c'était un sentiment tout à fait naturel. Mais est-ce que c'est le patriotisme ou le nationalisme, de vrai suivant, qui a motivé la ténacité des combattants dans les tranchées et leur engagement guerrier ? Je crois pas. D'abord parce que je pense que les historiens ne sont pas capables de mesurer exactement ce que sont les convictions de gens en 1914-1918. Tous n'ont pas exprimé leurs convictions, donc c'est très difficile de savoir pourquoi les gens font les choses. Hein, tant qu'on n'a pas mesuré par une enquête sociologique, et donc on ne peut pas déduire du fait qu'ils sont dans les tranchées qu'ils y croient. Il y a une aporie, il y a un problème. C'est pas parce que vous êtes là que vous y croyez. Vous pouvez être là sans y croire. Vous pouvez être là parce que vous n'avez pas le choix. Vous pouvez être là aussi parce que vous faites comme vos copains, ou parce que vous pensez à votre femme, et que vous avez envie de montrer que vous êtes un homme viril. Mais vous n'avez pas besoin forcément d'idéologie patriotique. Je ne plaisante pas, hein, l'image masculine fait que le soldat... Donc il y a des tas de raisons qui expliquent la ténacité des soldats, et pas forcément, je crois, le patriotisme. Je vais vous le montrer très précisément. C'est que d'abord, il y a énormément de soldats, souvent des soldats populaires, qui ne disent jamais un mot de la patrie dans leur correspondance. Ça ne veut pas dire qu'ils sont antipatriotes, attention, je ne dis pas. Mais je dis simplement qu'on n'a pas besoin de convictions patriotiques pour se battre. On fait ça parce que quand on a l'habitude d'être dominé, quand on est dominé à l'école, quand on est dominé par le service militaire, quand on est des gens ordinaires, on fait ce qu'on vous demande. Il n'y a pas besoin d'idéologie pour le faire. C'est des gens qui étaient souvent, vous savez, hein, dans les tranchées, c'est des paysans, c'est des artisans, c'est des gens qui ne sont pas forcément uniquement des dominés. Donc évidemment, ils ont l'habitude de la domination. Donc quand il y a une mobilisation, on y va. Mais on n'y va pas parce qu'on croit à la patrie, on ne part pas à la croisade, on y va parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Hein, parce qu'il y a une coercition, et surtout parce qu'on pose pas de questions. On y va comme on allait à l'école, comme on allait au service militaire, comme on obéissait évidemment au maire, hein, même dans les régions républicaines. Donc je crois qu'il faut faire attention, à mon avis, il y a une aporie méthodologique en croyant que parce qu'on y est, on y croit. Et donc je vais vous donner deux exemples de ces différences de classe dans les tranchées, très différentes. J'ai édité la correspondance d'une famille bourguignonne en France. Ils sont trois frères très différents. Il y en a un qui est clerc de notaire, l'autre qui est cantonnier, le troisième artisan. Ils font la guerre, et ils la font jusqu'au bout. Hein, ils se battent, et parfois ils se battent violemment. Et pendant toutes les lettres qu'ils échangent, il n'y a pas une fois le mot patrie.
Pas une fois. Pas une fois le mot nation. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas la guerre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas sérieusement. Mais c'est qu'ils n'ont pas besoin d'idéologie pour la faire. Ils la font parce qu'ils sont pris dans des réseaux sociaux, parce que pour leurs camarades, pour l'image de soi, hein, d'être un homme, parce qu'on fait la guerre quand on est un homme au 19e siècle. Hein, en tous les cas, c'est son rôle. Donc je crois qu'il faut faire attention au nationalisme. Hein, c'est une idéologie qui est, à mon avis, une idéologie des classes dominantes. Et il y a un livre qui sort maintenant en France qui le montre parfaitement. Il a étudié 42 intellectuels aux tranchées, depuis le début de la guerre jusqu'à la fin. Des intellectuels, donc, et tous ces intellectuels, certains sont connus, c'est Apollinaire, c'est le philosophe Alain, c'est des gens qui ont laissé des traces. Mais ils ont un intérêt, ces intellectuels, c'est qu'ils sont tous dans les tranchées avec les soldats. Et sur ces 40 intellectuels, tous disent la même chose de la guerre. Comment les autres peuvent tenir, ces artisans, ces paysans, alors qu'ils n'ont pas d'idéaux ? Que ce sont des gens simples, on ne partage rien avec eux. Même quand c'est des gens de gauche et républicains, ils disent tout ça. Ils disent, on est étonnés. Eux, ils sont très patriotes, hein, ils croient au combat. Hein, ce sont pas forcément du tout des nationalistes excités, hein, ce sont des républicains ordinaires. Ils y croient, ils sont motivés. Ils sont... Et ils disent, tous les gens qui nous entourent, mais ils sont loin, tous ces gens, tous ces paysans, tous ces artisans, comment ils font pour faire la guerre ? Alors que justement, ils n'ont pas d'idéologie. Alors que justement, ils tiennent comme ça. Et donc, ces deux exemples, hein, aussi bien vus des intellectuels que vus du peuple, je crois que c'est une erreur de méthode que de croire que le nationalisme a motivé la guerre. Le nationalisme, évidemment, était présent. Beaucoup de soldats étaient patriotes. Mais je crois qu'ils ne tiennent pas pour des raisons patriotiques. Hein, on n'a pas la mesure de cette conviction patriotique dans les tranchées. En tous les cas, ça me paraît un point très important. Et donc, du coup, vous voyez comment on revient à des rapports de classe dans les tranchées. La guerre, c'est pas uniquement l'union sacrée. Hein. Quand vous lisez ces 42 intellectuels, ils ne disent pas la même guerre que les artisans. Donc c'est un mythe. Et ça, c'est pas une question idéologique, c'est une question de travail empirique des historiens. Hein. Tous ces intellectuels disent la même chose. Tous ces gens du peuple, on est isolés. Ils se sentent isolés dans les tranchées, les intellectuels. Et pourtant, encore une fois, c'est pas des gens qui ont une morte de classe spécifique. Hein. Certains sont des gens de gauche, c'est des instituteurs. Il y a Louis Perbeau qui, d'ailleurs, va mourir. Donc on n'a pas affaire ici à un patronat de combat. Hein. C'est des intellectuels, des notables républicains. Et donc, dans leur rapport aux autres, hein, aux gens simples, ils découvrent le peuple dans les tranchées. Mais ils sont pas unis au peuple dans le départ. Ils le découvrent. Ils le disent très bien. Et d'ailleurs, ils sont parfois un peu gênés parce qu'évidemment, ils sont moins habiles à monter une tranchée, à creuser dans la boue. Et donc, il y a vraiment une différence de classe aux tranchées. Et l'auteur qui le montre bien, Nicolas Amario, dit, il faut rappeler, hein, il y a des rapports de classe dans les tranchées, et ils ne s'effacent pas avec l'union sacrée. C'est pas parce qu'on fait la guerre ensemble, hein, qu'on est devenu tout d'un coup sur le même niveau, et qu'on partage les mêmes croyances. Et ça, je pense que c'est très important aujourd'hui comme conclusion sur la guerre. On n'a pas besoin d'y croire pour la faire. Hein, et surtout pour les gens du peuple, hein, ils ne sont pas surchargés d'idéologie. Et je crois que les historiens, ils cherchent toujours des idéologies, parce qu'évidemment, hein, ils sont eux-mêmes des intellectuels, donc ils sont habitués à avoir un discours sur le monde, mais dans les tranchées, ce n'est pas comme ça que ça passe. Les soldats, ils tiennent pourquoi ? Pour leurs camarades, parce que si vous lâchez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous laissez les autres. Hein, donc évidemment, ils n'ont pas envie de les lâcher. Ils tiennent pour une image de soi, je vous l'ai dit. Le village, on pense à son village. On n'a pas envie qu'il soit quand même, évidemment, envahi par les Allemands. Et quand il est occupé, on a envie de le libérer. Mais tout ça ne demande pas d'idéologie. J'ai été long, mais je crois que c'est un enjeu fondamental du débat. Hein, on peut ne pas être d'accord, mais je crois que, j'ai essayé de vous le montrer, il faut relire la guerre autrement. Hein. Et donc, il faut voir qu'il y avait des formes de résistance populaire qui ne passaient pas par les mutineries, qui ne passaient pas par la désobéissance, mais qui étaient simplement l'idée d'une forme de ben, on est là, on fait les choses, et on ne le charge pas d'un sens au combat. Deuxième remarque, je suis long, mais c'est des gros enjeux. Ensuite, évidemment, on pourra répondre comme on voudra. On avait oublié un tournant, mais Mme Aurélie l'a rappelé, c'est que le communisme est né de la guerre. Hein, en tant que pratique politique dans le tournant, il faut quand même le dire. Et ce que vous dites est très important, c'est qu'en fait, si le communisme a existé comme système politique, c'est parce que la social-démocratie s'était abîmée dans la guerre. Et ça, c'est évidemment fondamental. Et ça a été dit dans un livre d'un intellectuel communiste français qui s'appelle Jean Fréville. Il a fait un livre, bon, qui vaut ce qu'il vaut, qui date des années 60, donc qui est daté. Et il l'a appelé « Né du feu ». Et ça, je crois que c'est fondamental. Le Parti communiste, les partis communistes, sont nés du feu. Donc c'est évidemment un tournant considérable, puisque c'est le feu et, en quelque sorte, l'échec de la social-démocratie. Hein, tout le monde le sait ici, c'est une évidence. Mais ce serait dommage, dans un bilan du tournant, d'oublier, évidemment, ce que tout le monde sait. Mais c'était juste pour rappel. Mais je voulais revenir surtout sur le point premier.
Non, je voulais réagir au premier tour de table. Oui. Et notamment par rapport à ce que Nicolas a dit, sur la question des rapports de classe pendant la guerre. Donc la guerre n'interrompt pas les différences de classe, évidemment. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent. Je crois que c'est très spectaculaire en Belgique où la population souffre énormément pendant la Première Guerre mondiale. Il y a une grande misère, il y a un chômage énorme, il y a des difficultés d'approvisionnement. Et les socialistes belges, au lieu d'organiser ce mécontentement, ce qu'ils auraient pu faire, ont au contraire envoyé Van der Velde haranguer les troupes sur l'Isère pour dire aux soldats de combattre avec enthousiasme, etc. Et les socialistes ont participé à des œuvres de charité patriotique envers les pauvres, et cela aux côtés de gens comme Solvay et Franqui, qui évidemment n'avaient pas du tout l'idée de planifier, de supprimer les différences de classe par cela. Et les différences de classe se maintiennent au front, et moi je vois, mais vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, moi je vois la question flamande essentiellement comme une question de classe, que ce soit sur le front entre soldats et officiers, etc., qui sont des officiers de Flandre et francophones, ce ne sont pas, pas forcément des Wallons. Et d'autre part, je vois cette question de classe, même à l'intérieur de l'Église, dans le mouvement flamand qui se dégage dans l'Église, c'est le mouvement des petits curés de campagne contre le cardinal Mercier. Donc, cette question de classe est essentielle à tous les niveaux de la guerre, et elle le sera même dans la question des réfugiés. Il y a, on l'oublie toujours, 1 300 000 Belges qui ont demandé asile ailleurs, en Hollande, en France et en Angleterre. Et qu'est-ce qu'on prévoit ? Eh bien, on prévoit en Angleterre, par exemple, une classification des réfugiés selon leur classe sociale. Alors, si vous êtes un réfugié pauvre, vous allez dans un camp. Si vous êtes un réfugié de classe moyenne, on va vous trouver une chambre dans un petit hôtel. Mais si vous êtes un réfugié de la classe dominante, eh bien, vous aurez droit à un hôtel particulier, et on prévoit même de la domesticité pour les réfugiés de haut niveau. Donc, là, c'est quelque chose d'essentiel, c'est que le patriotisme essaie de gommer les différences de classe, mais il les gomme évidemment.
Ce que je sais, c'est que par exemple, en Allemagne, il y a tous les députés socialistes qui menaient campagne contre la guerre, malgré la participation de leur parti. Ils ont été tout simplement mis en prison. Donc je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens non plus de critiquer ou de représenter les voix pacifistes ou les voix anti-guerre à cette époque-là.
Mais en Belgique, la question ne s'est pas posée. Il n'y avait aucun socialiste qui était franchement contre la guerre, tout au plus Camille Osmans, mais il était en Hollande, en pays neutre.
Mais donc, en Allemagne, ça a bien été le cas, évidemment. Donc, quelles ont été les conséquences pour le mouvement ouvrier ? Donc, le mouvement ouvrier s'est en fait divisé en trois grandes tendances pendant la guerre. La tendance très majoritaire a donc été celle qui a été décrite, c'est les socialistes, le Parti ouvrier belge, la direction du Parti ouvrier belge, où il y avait aussi des courants à l'intérieur, mais dont Paris, où Van der Velde était quand même un va-t-en-guerre assez prononcé, et c'était quand même le patron non seulement du Parti ouvrier belge, mais c'était aussi un patron de l'international socialiste, c'était un personnage important. Et donc, on doit se rappeler que Van der Velde, il a été harangué des troupes sur le front de l'Isère, mais à la fin de la guerre, quand les bolcheviks menaçaient de quitter la guerre, de retirer la Russie de la guerre aux côtés de la Belgique et des Français, il a même été envoyé sur le front russe pour essayer de convaincre les troupes de continuer la guerre, de convaincre les paysans russes, qui avaient déjà eu des millions de morts, de continuer à se faire massacrés, donc ils ont joué un rôle même jusqu'à ce point-là. Donc, pour vous dire, donc, il y avait une deuxième tendance, mais qui était aussi ces minoritaires, qui était ce qu'on appelle une tendance centriste. C'était des gens comme en Allemagne, Kautsky était le plus grand représentant, qui était contre la guerre, mais sur un point de vue pacifiste, il faut essayer d'arrêter cette guerre, etc. Et puis, il y avait une troisième tendance qui était la tendance révolutionnaire qui, au début de la guerre, était absolument minoritaire, était essentiellement les bolcheviques, qui étaient représentés par les bolcheviques, par Lénine, une tendance minoritaire dans le Parti socialiste allemand et très peu dans les autres partis socialistes. Mais donc, à la différence des partis sociodémocrates en Occident, le fait qu'il y a eu en Russie, dans une dictature aussi féroce que la Russie, il y a eu cette opposition claire contre la guerre, avec une orientation qui était une orientation révolutionnaire, qui avait été celle de l'ensemble de l'international socialiste auparavant, il faut le dire, c'est-à-dire quand il y a une guerre qui essaie pour des intérêts impérialistes, des grands patrons, des grands banquiers, nous devons transformer cette guerre en une guerre révolutionnaire, c'est-à-dire pour mettre fin au pouvoir de ces banquiers, pour instaurer une société socialiste. Ça, c'était la ligne de Lénine, c'était la ligne révolutionnaire qui avait été celle du mouvement socialiste auparavant. Et donc, on doit constater que dans les pays où, effectivement, il y a eu cette opposition, il y a eu cette tendance, qu'il y a eu aussi des mouvements révolutionnaires qui se sont créés, qui ont abouti à la révolution en Russie, mais aussi en Allemagne, où cette tendance était minoritaire, elle a abouti quand même aussi à la révolution allemande de 1918. Tandis que dans d'autres pays, la résistance, elle a été des soldats individuels qui ont déserté, qui ont essayé de déserter, qui se sont fait fusiller. En France, je pense que ça a été plus important, ces mouvements-là. Et donc, en absence de perspective, évidemment, non, ça n'a pas abouti. Mais bon, je pense que la première raison et les leçons que nous devons en tirer, c'est est-ce qu'il faut une orientation claire et est-ce qu'il faut se résoudre au début d'une guerre? C'est peut-être une question qui est encore d'actualité. C'est clair qu'au début d'une guerre, on voit toute la machine de propagande qui est mise en marche pour obscurcir les véritables objectifs de la guerre, pour créer un consensus national, pour se présenter comme celui qui est agressé. Bon, on peut dire, je suis d'accord, que le fait que la Belgique ait été agressée, ça a certainement contribué beaucoup à créer une base de masse. Mais il ne faut pas oublier que la Belgique s'est rangée dans un camp qui avait des visées impérialistes. Pendant la guerre, il y avait déjà des discussions pendant la guerre, comment on allait répartir le butin après la guerre. Chacun avait ses régions qu'il voulait avoir, ce qui a été appliqué d'ailleurs après la guerre. Et même Van der Velde a écrit, il a participé au débat de à quoi la Belgique aurait droit après la guerre. Donc il voulait le Luxembourg, il voulait les pays rédimés. Donc ces gens, ils raisonnaient dans ce genre de...
C'est quand même dommage qu'on n'a pas eu le Luxembourg. C'était une blague. Nicolas voulait réagir.
Pour répondre sur la question du mouvement ouvrier français, il faut rappeler quand même la chronologie, c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est-à-dire un mouvement qui est en léthargie, qui suit l'Union sacrée, c'est quelque chose qui va quand même se fissurer à partir de 1916. Hein, parce que la guerre s'enfonce dans les conditions que vous connaissez, donc il y a quand même une résistance qui monte de plus en plus. D'abord parce qu'en France, c'est comme en Belgique d'une certaine manière, hein, mais d'abord les Français sont tétanisés. Hein, les Allemands arrivent jusqu'à quelques kilomètres de Paris, donc il faut défendre le territoire. Mais ensuite, ce territoire, évidemment, ça se transforme, cette défense du territoire en guerre de tranchées, hein, et donc le danger devient moins imminent, hein, progressivement. Et notamment, si vous voulez, par exemple, le Parlement, au début de la guerre, il ne siège pas, il se tait, et Joffre fait absolument ce qu'il veut. Sauf que progressivement, on est quand même dans une république qui est quand même ancrée depuis longtemps, le Parlement reprend ses droits. Et ses droits, ça veut dire des débats parlementaires, même si c'est en comité secret. Et donc, vous avez des députés socialistes, des députés républicains qui commencent à critiquer un certain nombre de fonctionnement des opérations. Donc il faut rappeler la chronologie pendant la guerre. Hein. Et à partir de 1916, c'est le cas aussi en Allemagne, où les conditions de vie se dégradent encore plus. Hein. L'opposition politique commence à pouvoir s'exprimer, que ce soit légalement ou pas, peu importe, mais en tous les cas, il y a des fenêtres de discussion qui sont plus importantes. Par exemple, en 1916, il y a un discours très célèbre d'un député oppositionnel socialiste qui est Pierre Brizon, qui a un retentissement considérable. Hein. Et Pierre Brizot, c'est un retentissement considérable jusqu'au front. On a édité ses lettres de guerre. Il y a beaucoup de poilus qui lui écrivent en disant « Ah, enfin un discours comme on voulait l'entendre hein. ». Mais c'est pour vous montrer que là, il y a une chronologie. Et effectivement, ça va s'accélérer jusqu'aux révolutions russes, allemandes, jusqu'aux républiques des conseils, etc. Mais la chronologie est là très importante. Il faut du temps hein, pour sortir, que ce soit pour les Français ou pour d'autres. Hein, des premiers moments, effectivement, le danger soude toujours. Hein, ça, c'est évident. Et vous avez employé un terme qui, à mon avis, est très juste. Hein, c'est la notion de vengeance. Hein. Ça, je crois qu'en réalité, c'est aussi une notion qui marche bien même en 14-18 et qui montre aussi que la vengeance ne demande pas forcément d'idéologie non plus. Hein, parce qu'effectivement, quand des gens sont chez vous, vous avez envie de les chasser. Mais pas forcément parce que ce sont des Allemands, parce qu'ils sont comportés comme des barbares, etc. Et je vais vous donner un exemple pour vous montrer aussi que je ne crois pas que la haine obsédait non plus tout le temps les soldats. Et ce mot de vengeance me paraît très juste hein, dans le monde de fonctionnement. La même famille, pour ne pas vous prendre 50 exemples, la famille Papillon, donc c'est Bourguignon, n'exprime, je vous l'ai dit, jamais de patriotisme dans leurs lettres. Et jamais de haine des Allemands. Il n'y a que deux moments où l'un d'eux exprime une haine des Allemands. Deux moments sur toute la guerre, c'est pas beaucoup, hein, sachant qu'ils sont au front. Le premier moment, c'est quand un Allemand vole les bottes dans les tranchées, il y a une petite attaque. Hein, les Allemands, les Français n'étaient pas prêts, il n'y a pas beaucoup de blessés, mais les Allemands qui viennent pour voir un peu. Ils volent les bottes du soldat, qui s'appelle Marcel Papillon. Hein. Et donc là, c'est le seul moment où il dit « Ah, ces salauds d'Allemands, etc. » Mais pas parce que c'est des Allemands, parce qu'ils lui ont piqué ses bottes. Et d'ailleurs, à la contre-offensive suivante, le seul truc qui l'intéresse, c'est pas d'aller tuer les Allemands, c'est de récupérer ses bottes et de foutre une dérouillée à celui qui les a piquées. Alors ça peut paraître anecdotique, mais à mon avis, c'est très juste. Il s'agit de se venger d'un type qui lui a fait du mal, et pas du peuple allemand hein, ou de l'ensemble des Allemands. Et le deuxième moment où il exprime sa haine des Allemands, c'est quand son frère est tué à la guerre. Et donc là aussi, c'est quelque chose, on peut dire, de personnel. Hein, et même quand les Allemands avancent, etc. Hein, donc cette idée de vengeance, elle marche bien, y compris au niveau individuel, et pas seulement au niveau des peuples. Hein, c'est que les dispositifs des soldats n'étaient pas forcément liés à un grand patriotisme, mais pouvaient simplement s'ancrer dans leurs conditions concrètes. Et on comprend que ça ait pu marcher, évidemment, dans la Belgique, hein, après les fameuses atrocités allemandes, qui, de fait, sont des réalités, comme on le sait aujourd'hui. C'était le deux points sur lesquels je voulais insister.
En fait, c'est à propos de livres. Moi, je trouve que ce musée il répond fort à mes rêves, mais peut-être moins à la réalité. Dans le sens où il y a toute une pièce, en tout cas dans la première implantation, il y a toute une pièce qui est réservée aux fraternisations de Noël 14. Alors, c'est un moment qui a existé, mais qui est extrêmement limité, qui est extrêmement rare, et dont on fait une pièce maîtresse. Alors pour moi, ça correspond à mes rêves. J'aurais voulu effectivement que tous les soldats des deux côtés s'embrassent pendant non seulement les jours de Noël, mais les autres aussi. Mais ça ne correspond hélas pas trop à la réalité générale. Et notamment, on parlait de chronologie. L'incident, je dirais, de Noël 14 ne va pas avoir beaucoup de répercussions avant la vague de 1916-1917 surtout. Et là, en 1917, oui, il y aura beaucoup de fraternisation, d'abandon de poste. Bon, pour l'Italie, c'est Caporetto qu'on a présenté comme une défaite, mais qui, selon des livres récents, est plus une manifestation de y en a marre et de vouloir déserter. Et donc, je trouve que là, le musée est peut-être notre perception d'aujourd'hui projetée sur un passé tel que nous aimerions bien le voir.
Là, je suis en total désaccord avec Anne. Je pense que ce que vous dites n'est pas juste sur les fraternisations, parce que c'est pas du tout un point de vue, c'est simplement une démonstration historique, et bien sûr on peut en discuter. En réalité, des fraternisations et des trêves, vous en avez pendant toute la guerre, sur tous les fronts. Vous en avez sur le front ouest, de 14 à 18. Vous en avez sur le front est. Vous en avez même à Gallipoli avec les Turcs. Pourquoi et comment ? Pourquoi ? C'est tout simple. C'est que lorsqu'il n'y a pas d'offensive, lorsqu'il n'y a pas de raison d'aller se battre avec l'adversaire. Qui va vouloir aller se promener pour aller tuer un Allemand? Mais personne. Ce que veulent les soldats après des années de front, ils veulent être tranquilles. Donc dès qu'ils ont la possibilité d'être dans des tranchées, si vous êtes dans des tranchées dans les Vosges en 1916, vous voyez que les soldats ils vont sortir pour aller tirer sur les tranchées d'en face. Ils ont juste envie, surtout, et c'est ce que Dominique dit très bien, le commandement ne voulait pas le laisser faire, ils ont envie d'être tranquilles. Et donc quand les soldats sont 3 ou 4, parfois les tranchées elles sont à 50, à 100 mètres. Donc il y en a un qui fume une cigarette, l'autre fume une cigarette. S'ils parlent un peu la même langue, eh ben, ils discutent 2 minutes. Alors c'est des petites fraternisations, c'est pas aussi important que Noël, mais vous en avez tout le temps sur tous les fronts. Il y a un livre qui les recense en entier sous la direction de Marc Ferraud, si vous voulez, hein, mais vous en avez des centaines, vous en avez des milliers tout le temps. Dès que c'est possible, les soldats ont l'occasion de fraterniser. Alors quand je dis fraterniser, ça ne veut pas forcément dire se sauter dans les bras. Il y a des tas de formes de fraternisation. Le premier niveau, c'est simplement de ne pas se tirer dessus. Hein? Donc, c'est ce qu'on appelle une trêve tacite. Et ça, tous les témoignages en parlent. Hein? Même des officiers républicains d'extrême droite, catholiques, ils disent, c'est quand même incroyable, finalement, dans les tranchées, on finit par s'arranger avec les Allemands pour, dans une forme de vivre et laisser vivre, comme l'a dit un historien anglais. Et ça, vous l'avez tout le temps. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est 3-4 soldats qui sont face à face. Et puis finalement, bon, il n'y a pas d'officier dans le coin. Ça fait des mois qu'il n'y a pas eu de grande offensive. Et bien, on échange des journaux. On discute. Et parfois, quand on connaît la même langue, on va un peu plus loin. Hein, vous savez, il y a beaucoup, on dit souvent que beaucoup d'Allemands étaient serveurs en Grande-Bretagne parce que, évidemment, l'Allemagne avait eu un décollement économique plus lent. Et donc, du coup, ils parlaient assez bien l'anglais. Hein. Et donc, il y a une anecdote comme ça pour vous dire, il y a un moment, donc ils étaient serveurs. Et donc, il y a une anecdote dans une tranchée où un Anglais s'adresse à la tranchée allemande et il appelle comme dans un bistrot de Londres, il dit « Waiter », il y a tous les Allemands qui se lèvent. Donc, c'est évidemment une anecdote, mais c'est vous dire que ces trêves et ces fraternisations, on en trouve tout le temps. Moi, je l'ai souvent trouvé même chez les officiers qui les dénoncent. Donc, il ne s'agit pas de socialistes qui les racontent, c'est des officiers. Hein, c'est Jean Calvet, par exemple, en 1916, hein, à Verdun, il dit « Mes hommes n'arrêtent pas de fraterniser, ils échangent quelques mots, ils échangent des journaux, et je fais tout pour lutter contre ça. » Donc, ce n'est pas des sources, si vous voulez, qui seraient patries, qui seraient socialistes, qui valoriseraient une forme d'humanité du prolétariat. C'est la réalité des tranchées, parce que ça se comprend très bien. Hein, quand vous êtes à quelques mètres de l'autre pendant des mois, vous n'avez pas spécialement envie de vous prendre un obus de plus. Alors donc si vous pouvez fumer une cigarette et parler de vos enfants et d'échanger quelques mots, d'ailleurs certains se sont revus après, vous le faites. Alors vous ne le faites pas tout le temps. Et ça ne veut pas dire que les mêmes hommes ne repartiront pas au combat. Je ne dis pas du tout hein, que ça n'enlève. Mais je dis ça vraiment, c'est une erreur totale de dire oui, Noël 14 c'est exceptionnel, Noël 14 c'est quelque chose. On dit ça en disant, ben oui, mais vous voyez, les gens exagèrent, c'est une lecture socialiste de l'histoire. C'est pas vrai. La réalité, c'est que dès qu'ils le pouvaient, les simples soldats fraternisaient avec les autres parce que simplement ils étaient dans les mêmes conditions et qu'ils avaient envie de se protéger. Donc c'est des questions totalement humaines. Hein. Donc c'est ça qui est très important. Donc l'esprit de fraternité, dès qu'ils le pouvaient, les gens simples, ils l'exerçaient. Simplement, ils ne le pouvaient pas tout le temps. Pardon d'avoir été long, mais c'est des enjeux.
Pour faire une bonne guerre, il faut des gentils, il faut des méchants, l'argent et Dieu. Il faut des gentils, il faut des méchants, et entre les deux, des innocents. Faut tuer des gentils, faut tuer des méchants, il faut en avoir pour son argent. Pour faire un bon film, il faut des gentils, il faut des méchants, du cul et Dieu. Un petit peu de cul, un petit peu de Dieu, et des brouettes de bons sentiments. Mais il faut surtout punir les méchants, et qu'ils fassent beaucoup, beaucoup d'argent. Pour faire un mariage, il faut un mari, une femme, un amant, de temps en temps. Un époux confiant, qui est sûr en se couchant, d'avoir Pénélope au fond de son pieu. Faut un mari myope, un amant fougueux, et une belle salope entre les deux. Pour être président, faut promettre tout. Au bout de quelques temps, tout le monde s'en fout. Faut être un tueur, faut être convaincant, sinon l'électeur va foutre le camp. Et l'on peut mentir et trahir aussi, mais au nom de la démocratie. Pour faire une chanson, il faut du vécu, de l'amour à foison, parfois du cul. du rire, du tragique, point de trémolo. Et quand on évoque les gros salauds, faut pour la musique et le choix des mots, la liberté au bout du stylo.
Réalité n'existe pas, il y a des réalités, plusieurs réalités. Et une autre réalité, enfin...
Oui, moi je voulais simplement dire, moi je reçois les étudiants qui ont 18 ans, et très souvent, ils pensent qu'il y avait une masse de pacifistes dans l'armée, et qu'ils étaient traînés contre leur gré, et ce qu'ils répondent quand je dis « d'où viennent vos informations ?» Eh bien, en général, en classe, on a vu le film Joyeux Noël. Et le film Joyeux Noël donne l'idée, évidemment, fausse, que ça a été un mouvement de fond et que les volontaires pour aller tuer en face, ce n'était que quelques malades. Donc, je pense que les médias, les films peuvent avoir un impact énorme sur la vision qu'on a de ces événements d'il y a 100 ans.
Je voudrais aussi, donc, Nicolas veut de nouveau répondre. Bon, il est venu de Paris pour parler, on ne va pas lui arrêter. Mais je veux citer pour aborder aussi un autre thème, donc, ce qui n'était pas vraiment représenté dans l'histoire. Moi, je rappelle d'avoir vu le film A Paths of Glory de Stanley Kubrick, hein, qui est un film. Extraordinaire, à mon avis, un des plus grands films qui a été réalisé au XXe siècle, sur donc les mutins qui étaient exécutés. Et j'ai trouvé, parce que c'était un aspect de la guerre qu'on n'a pas, maintenant tout le monde le sait, je pense, mais c'est pas beaucoup enseigné à l'école non plus, et pas certainement que je me rappelle de l'école. Donc Nicolas cite dans un de ses travaux, et notamment la petite nièce du soldat belge, Paul van den Bos. Et il paraît qu'en Belgique, il n'y avait que 12 Belges fusillés comme mutins pendant la Grande Guerre. Et sa petite, c'est peut-être pas vrai, mais j'ai trouvé ça, ils ne sont pas morts pour la patrie, mais par la patrie. Donc, qu'est-ce qu'il y en est de cette réalité aussi vécue dans le fond? Est-ce qu'il y en avait plus peut-être de ça?
Vous me claimez un petit peu corriger, mais c'est inédit, mais 12. Oui, pardon, juste pour continuer le débat rapidement. J'ai jamais dit que les soldats qui fraternisaient étaient pacifistes. J'ai jamais dit que ça, pour fraterniser, il y avait besoin d'être pacifiste. Hein. C'est pas du tout mon propos. Je dis simplement que c'était des pratiques du front qui correspondent simplement à la situation du front. Mais ça ne sous-entend pas que tous les gens qui discutaient 5 minutes avec les Allemands n'allaient pas faire la guerre après et n'allaient pas leur lutter tout à fait parfois férocement. C'est simplement que les situations sont plus complexes et que les fraternisations sont une réalité de la guerre, qu'on le veuille ou non, comme les raids que vous avez décrits, c'est tout à fait juste. Maintenant, sur les armes, il faut faire attention. Là aussi, vous dites qu'il y a des réalités. Par exemple, Louis Barthas, qui est un caporal tonnelier, on lui distribue un couteau de tranchée. Et il rigole, il dit « mais personne ne se sert de ça, ça va me servir à couper le pain hein ». Donc vous voyez, les armes, c'est pas parce qu'elles sont fabriquées que pratiquement tous les soldats vont s'en servir hein, pour aller taquiner l'Allemand dès qu'ils auront l'occasion. Et souvent d'ailleurs, j'ai un de mes étudiants qui fait une thèse là-dessus, les gens qui sont des nettoyeurs de tranchées, hein, ceux qui sont véritablement violents, c'est pas tout le monde aussi. Hein, c'est souvent des gens qui ont un profil sociologique spécial, etc. Donc bien sûr que ça existe, et c'est vrai qu'il y a des raids, et c'est vrai qu'il y a des volontaires. Tout ça est très juste. Mais ça n'engage pas hein, qu'il y ait une forme d'idéologie profonde qui les justifie. C'est des gens qui sont situés, qui existent, et on peut aussi, comme vous dites, trouver d'autres réalités. Maintenant, sur la question, pour aller rapidement, hein, je vous ai donné cet exemple de Barthas, mais on pourra en trouver d'autres. Hein. Sur la question des résistances à la guerre, c'est une lourde question. Sur l'armée belge, j'avais fait avec ce que je disposais en 99. Maintenant, l'historiographie a beaucoup progressé. Et j'ai vu que depuis, beaucoup de choses sont sorties. Je vais juste donc vous donner un peu le cadre rapide hein, de ces questions-là. En réalité, la question des soldats et de la discipline au front se présente de la manière suivante, là aussi très chronologique. C'est que globalement, hein, les résistances à la guerre, on le voit, elles sont croissantes.
Elles sont croissantes, mais il y a un paradoxe qui est assez intéressant, et je vais juste jouer là-dessus pour ne pas monopoliser la parole. C'est pourtant pas au moment où les résistances sont les plus fortes qu'elles sont le plus réprimées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est là aussi en France, mais c'est le cas ailleurs aussi, au début de la guerre, hein, les états-majors ont plein pouvoir. Et plein pouvoir, ça veut dire qu'ils utilisent la justice militaire à plein, hein, pour exercer une contrainte sur l'armée. Et plus le pouvoir civil, c'est le cas en France, mais en partie aussi en Angleterre, plus le pouvoir civil reprend la main, plus il essaye de limiter les exécutions et plus il essaye en quelque sorte de limiter la répression. Donc en fait, la répression contre les soldats, elle est d'autant plus forte que l'état-major a la main sur la justice militaire. Par exemple, en France, le droit de grâce est supprimé au début de la guerre, mais le président de la République va le reprendre progressivement. Hein, donc vous voyez, c'est aussi un rapport de force, la question de la discipline, hein, entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire. Et ce qui est assez fascinant, vous savez, on parle en France toujours des grandes mutineries de 1917, en disant, ben oui, c'est une grande révolte, il y a eu énormément d'exécutions. En fait, il y a eu très peu d'exécutions pendant les grandes mutineries de 1917, on en a eu une trentaine, ce qui est beaucoup moins que pour le seul mois d'octobre 1914. Il y en a eu 60 en octobre 1914. Pourquoi ? Parce qu'en octobre 1914, l'état-major a les moyens, hein, d'exécuter la troupe facilement, ou en tous les cas d'exercer une pression militaire. En 1917, en France en tous les cas, le pouvoir civil demande plus de contrôle, hein, y compris dans les moments de répression. Donc c'est aussi intéressant, et ça pose une question qui se reposera pendant la guerre d'Algérie, et qui se repose pour nous à tout moment, hein, c'est les rapports de force en guerre entre pouvoir civil et pouvoir militaire qui sont un enjeu évidemment considérable.
Je pense que c'est une guerre où justement se sont mis au point tous les principes de la propagande de guerre. Et par exemple, il n'y a que les autres qui font des atrocités. Ne parlons pas de l'économie, ce sont des nobles causes qui sont en jeu ici, etc. Et tous ces principes ont été mis au point à ce moment-là, et ils jouent dans toutes les guerres récentes. En fait, on peut appliquer de manière systématique tous ces principes aux guerres contre la Libye, l'Afghanistan ou aujourd'hui la Syrie. Donc c'est une guerre qui est exemplaire au point de vue de l'élaboration de la propagande.
Je pense que je vais être très court, j'ai déjà trop parlé apparemment. Donc pour dire d'un mot, que je crois que l'enjeu du centenaire, il est très clair. En Belgique, en France, c'est évident, en Angleterre aussi. C'est quelque chose qui est très profond, hein, pour les populations, ça nous touche tous, à la fois les territoires localement, évidemment en Flandre et en France. Et donc le véritable enjeu, c'est que le centenaire ne soit pas quelque chose d'en haut, mais qu'on s'en sert finalement pour en faire une forme de forum de discussion sur les enjeux et la construction de la guerre. Donc en gros, c'est de faire du centenaire un lieu de débat et pas un lieu de commémoration. Et ça, c'est un véritable enjeu finalement qui nous concerne tous. Et je crois, on l'a vu là déjà dans nos discussions, que la Grande Guerre est un terrain parfait pour en faire un forum de réflexion entre le passé et le présent. Et c'est ça tout l'enjeu du centenaire, qui n'est d'ailleurs pas gagné.
Interrogez-vous.
Vous n'êtes pas au monument aux morts. Vous n'êtes même plus dans les mémoires comme vos compagnons de la mer Noire. Vous êtes mort et deux fois mort. À vos petits-enfants, l'on ne répète jamais comment finit leur grand-papa. Il y a des choses dont on ne parle pas, mutin de 1917. Sur votre dos, les Joffre et les Nivelles faisaient carrière dans les états-majors. Le rumeur décidait de votre sort. Aujourd'hui, qui se le rappelle? Au lieu de s'emmerder en garnison, au lieu de piétiner au même grade, c'était le temps béni de l'emploi. Vous parlez d'une belle occasion. Vous aviez fait tant d'assauts inutiles, juste pour corser le communiqué. Vous vous sentiez tellement coquefié, tellement pris pour des imbéciles que vous avez voulu que ça s'arrête, cet abattoir tenu par la patrie, cette nationale charcuterie, mutin de 1917. Avant l'attaque, arrivaient les cercueils et vous coupiez votre pain sur leur planche tout juste si le crêpe à votre manche n'annonçait votre propre deuil. Par malheur, la France n'était pas prête. Se révolter lui paraissait énorme. Elle bavait encore devant lui. Mutin de 1917. L'histoire vous a jeté dans ses égouts, cachant sous les flots de ses Marseillaises qu'une bonne moitié de l'armée française brûlait de fer. Comme vous, un jour sortirez-vous des oubliettes, un jour verrons-nous gagner votre cause. J'en doute, à voir le train dont vont les choses, mutin de 1917, mutin de 1917.